Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Anna Sigalevitch, Charles Arden et Emmanuel Dupuis. À notre sommaire, Tristan et Isolde de Wagner, dirigé par Anna Altinoglu, mise en scène Ralph Piger. C'est à La Monnaie à Bruxelles. The Rex Progress de Stravinsky, mise en scène Simon McBurn et dirigé par Eivind Gullberg Jensen. C'est à voir sur Arte TV. Et puis un disque, Titan de Gustav Mahler, dirigé par François-Xavier Roth avec son ensemble Les Siècles. Un coup de cœur de Charles Arden également pour Mamselle Nitouche, qui sera présenté au Capitole, puis au Théâtre de Marigny. Nous ouvrons cette dispute avec une nouvelle production de Tristan und Isolde, de Wagner, dirigée par Alain Altinoglu. Faut que je fasse des efforts en allemand, je sais. Dans une mise en scène de Ralph Piger, à La Monnaie de Bruxelles. Cette action en trois actes, comme l'appelle son auteur, et donc la mise en musique d'un poème que Wagner avait lui-même écrit d'après la légende celtique de Tristan et Isolde. Une légende qui date sans doute du XIIe siècle, qui raconte la passion évidemment contrariée d'une femme et d'un homme que tout devrait opposer. Si vous avez envie de raconter plus, vous le ferez dans un instant. Mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, sont quelques mots à peine pour nous donner un peu votre sentiment sur cette production, sentiment que vous développerez par la suite, Anna Sigalevitch.
Alors, en quelques mots, une mise en scène très plastique pour un orchestre, lui, très vivant.
Emmanuel Dupuis.
L'orchestre vivant, oui, tout à fait. C'est même pour moi la direction musicale d'Alain Altinoglu qui fait tout l'intérêt de cette production, parce que pour ce qui est du spectacle, j'ai trouvé ça d'un vide théâtral à peu près complet.
Charles Arden.
Tristan et Isolde qui visitent une assez belle exposition d'art contemporain, fort bien éclairée, animée d'ombre et de lumière. L'esthétique est un peu glacée, les flammes sont à l'orchestre.
Bon, alors moi je n'ai pas été à Bruxelles, hein. J'ai pas eu cette chance. Ce devoir, comme vous, l'image est importante. Qu'est-ce qu'on voit, Anna Sigalevitch, sur ce plateau de La Monnaie?
L'image est très importante et moi, je ne suis pas tout à fait comme Emmanuel et comme Charles, parce que je trouve que ces images ont un vrai pouvoir évocateur. Pas tout le temps, pas de bout en bout, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Alors, il faut décrire ce qui se passe plastiquement. C'est important de dire que la conception artistique est de, en effet, Ralph Piger, mais également de Alexander Poltsin. Ils ont vraiment conçu le spectacle ensemble. Alexander Poltsin, qui est le scénographe, et Ralph Piger, le metteur en scène, mais ils ont ensemble conçu l'objet qui s'offre à nous. Donc au Théâtre de la Monnaie, il y a trois décors différents, un pour chaque acte, avec quelques réminiscences du premier au troisième, enfin à la toute fin, mais voilà. Alors, quand le rideau se lève, donc il y a d'abord le prélude, rideau fermé, puis le rideau se lève, il s'ouvre sur des sortes de stalactites géantes qui tombent des cintres à différents niveaux, des stalactites qui peuvent faire penser aussi à des sortes de dents d'animaux préhistoriques. Enfin, c'est assez ouvert le sens. On peut aussi imaginer des chrysalides qui sont pas forcément dures. On n'identifie pas très bien la matière. C'est dans une couleur un peu ivoire avec un grand miroir en fond de scène, dans lequel se reflètent les trois protagonistes du départ, hein, qui sont donc le jeune marin, Isolde et Brangen. Donc ça, c'est au départ. Au deuxième acte, parce que comme ça je croque les trois images. Au deuxième acte, décor assez étonnant, une sorte d'immense sculpture blanche. Alors là, on peut aussi imaginer pas mal de choses. On peut imaginer des coraux fossilisés. Il y a un petit côté radeau de la Méduse coincé en plein vol. On peut aussi voir une sorte d'arbre. On peut voir un poumon. Il y a un côté organe. Et le grand duo d'amour va se passer à l'intérieur de cette structure, voilà. Et puis le troisième acte est lui beaucoup plus lunaire. Donc on a un cadre de néon blanc qui entoure le fond de scène, avec une sorte de panneau dans les gris qui est constellé comme ça de plein de petits trous dont vont sortir quelques tubes, avec une chose importante parce que la lumière est très soignée, un rail qui est rasant, qui est au sol et qui promène. Qui se promène de jardin à cour et qui comme ça diffuse une lumière différente avec ce projecteur-là. Donc ça, c'est les trois décors de ce spectacle qui pour moi racontent des choses, mais
alors,
on y viendra
c'est
après.
Pas pour tout le monde. Alors, mais parce qu'effectivement, avec ces images fortes décrites par Anna Segalevich, faisait sourire en coin Emmanuel Dupuis parce que la question évidemment suivante, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces décors ? Qu'est-ce qu'en est-il de cette mise en scène ? Est-ce qu'elle est écrasée par ces images, Emmanuel Dupuis ?
Moi, je pense que oui. Je pense que ce décor prend beaucoup de place et même qu'il prend toute la place. Bon, ça, on va détailler un peu plus tard. En fait, moi, j'ai compris le parti pris de cette mise en scène en lisant ce que le metteur en scène avait écrit dans le programme.
C'est jamais bon signe.
Ce qui déjà est un mauvais signe. Et ce qu'il écrit, c'est que pour lui, le filtre agit comme un psychotrope.
Et le filtre d'amour.
Hein. Le filtre d'amour, bien entendu. Et plonge Tristan et Isolde dans des états de conscience modifiés et par conséquent, ce sont très probablement ces états de conscience
des
modifiés.
Des hallucinations.
Cet univers parallèle, cette réalité parallèle que va nous montrer le spectacle à travers ces décors étranges pendant les trois actes.
Ouais, vous n'avez pas la même vision, Charles Ardenne ?
Si, tout à fait, mais pour moi, c'est justement un bon exemple des cas où il faut pas trop lire le programme et pas trop faire attention à ce qu'on dit les créateurs, parce qu'en effet, ils insistent lourdement sur la dimension psychotrope, hallucinatoire. Ça fait qu'Isolde a une espèce de robe Woodstock au deuxième acte qui, franchement, j'en vois absolument pas le sens. Alors que les objets, la scénographie sur scène, en effet, comme dit Anna, moi j'ai vu beaucoup de choses. Je pense que c'est l'intérêt, c'est que moi j'ai vu des choses totalement différentes, mais sans doute complémentaires. Donc en effet, il y a des stalactites.
On n'avait pas pris les mêmes drogues. Nos perceptions étaient différentes.
Sans commentaire, mais on échangera. J'ai vu donc il y a stalactites, arbres et tubes. Moi, dans les stalactites, j'ai vu aussi de la cire qui coule, la dimension des voiles du bateau sur lequel se passe le premier acte. J'ai vu aussi des gants, des mains qui plongent, comme pour récupérer Tristan et Isolde et les faire monter aux cieux. Du coup, en continuant cette lecture dans le deuxième acte, moi j'ai vu un arbre, mais dont les branches sont des corps pétrifiés, d'autant que il y a des danseurs qui sont figés tout en blanc aussi. Au début, on ne les distingue pas des branchages, on ne sait pas si c'est organique, si c'est vivant. Ça pourrait être un arbre, ça pourrait être aussi une souche qui est souterraine. Et enfin, le troisième tableau avec ces tubes qui viennent du fond de la scène, c'est un peu comme pour aspirer la force vitale, comme pour faire monter l'âme. Enfin, il y a plein d'éléments d'inspiration
et
de réflexion qu'on peut avoir.
Il y a presque un côté soviétique, je trouve, avec le personnage presque à la Malevitch. Il y a un côté avant-garde un peu russe dans le troisième acte qui est étonnant.
Et Emmanuel Dupuis, vous voulez pas faire votre psychanalyse, vous, parce que Anna, visiblement, et Charles l'ont fait.
J'ai un peu de mal. Tout ce qui est dit sur l'aspect plastique, visuel de ce spectacle, j'adhère totalement. Il y a notamment un travail sur les ombres et la lumière qui est absolument remarquable. Ces décors en soi sont vraiment très beaux, quoi. Il y a aucun souci là-dessus. Mais le problème, c'est que le jeu théâtral est extrêmement statique. Et même dans Tristan et Isolde, en fait, c'est un opéra dont la densité théâtrale est à peu près inversement proportionnelle à la densité musicale. Il se passe pas grand-chose, mais il y a quand même quelques scènes d'action. Or, même ces scènes d'action sont totalement escamotées par la mise en scène. Par exemple, Tristan et Isolde ne vont pas boire le filtre d'amour. À la fin du deuxième acte, Mélotte ne frappe pas Tristan. Au troisième acte, Courvenal ne tue pas Mélotte. Tout est dans la suggestion.
C'est étrange tout de même.
Oui, voilà, tout est
c'est complètement abstrait.
Tout est abstrait, tout est dans la suggestion. Quelqu'un qui n'a jamais vu Tristan et Isolde ou qui ne lit pas le synopsis avant de voir ce spectacle, à mon avis, n'y comprend pas grand-chose. Et moi, j'ai le sentiment de qu'on passe à côté du sujet, tout simplement.
Anna Segalevich, encore un mot, cette mise en scène.
Alors, sur la mise en scène, je rejoins Emmanuel à certains égards, hein. C'est vrai, il y a un côté wilsonien aussi, wilsonien ou sous-wilsonien, hein, ça dépend si on...
Voilà, qui fait référence au metteur en scène Bob Wilson.
Oui, pardon, donc. Qui fait référence au metteur en scène
Chantre
Bob Wilson.
Chantre du hiératique,
oui, avec,
de la lumière
très
dosée.
Très erratique, avec les mouvements de Brangen notamment sont très chorégraphiés, ceux de Tristan aussi. Tout passe par les mains, en fait, ils ne se touchent presque jamais. Et néanmoins, c'est là que moi, je trouve que c'est quand même pas si inintéressant que ça, c'est que c'est pas non plus dépourvu de sensualité. C'est comme si le fluide passait par les mains, notamment à l'acte 2, même le fluide passe par les corps que vous évoquiez, Charles, sur dans cette immense structure où les corps des danseurs communique comme ça le fluide d'amour qui circule entre Tristan et Isolde. À l'acte 3, Tristan a les mains comme ça, les paumes face publique. On sent qu'il est, en fait, il est pétrifié par l'amour, il ne peut plus rien faire. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se raconte, mais en effet, dans une abstraction, dans quelque chose de trop statique et par moments, bizarrement, des choses un peu lourdes et ratées. C'est les deux.
Oui, juste pour rebondir rapidement, c'est très intéressant. En effet, selon moi, ce travail sur les mains, Tristan enlève ses gants de militaire, comme Isolde enlève ses gants d'enchanteresse, et toute la sensualité passe par les mains qui se caressent, qui se frôlent et qui s'enlacent finalement.
Bon, alors je n'oublie pas que dans votre première prise de parole, vous avez tous loué la musique, donc on va déjà entendre un extrait du duo d'amour de l'acte 2. Voilà pour cet extrait de Tristan et Isolde qu'on peut l'entendre parfois à la Monnaie, parce qu'il y a plusieurs distributions, c'est bien cela. Vous n'avez pas vu forcément les mêmes les uns et les autres selon les jours où vous y êtes allé. Alors peut-être qu'on va se concentrer quand même davantage, et vous l'avez évoqué, sur Anna Altinoglu qui fait maintenant les belles heures de Bruxelles, et ça a l'air de continuer à être le cas, Charles Ardenne.
Ah oui, il fait les belles heures, il est fièrement applaudi par le public qui vraiment a acclamé cette prestation que j'ai trouvé vraiment vraiment remarquable. Si j'avais un seul bémol, si j'avais un seul grief, ce serait pour les cuivres qui, bon, certes, sont très très importants dans cette partition et qui là, quand j'y étais le 8 mai, ont dérapé un peu, aussi bien en soliste que dans les contrechamps, mais pour le reste, il y a vraiment cette réunion indispensable pour cet opus qui est la précision des leitmotifs, hein, les motifs musicaux qui reviennent, qui font la signature de la composition de Richard Wagner. Et cette précision, du coup, comme elle se combine avec le génie de Wagner, elle peut déployer des masses, des forces, des amplitudes. Alors certes, jusqu'au point où ça couvre certains chanteurs par le volume, mais je suis désolé, au bout d'un moment, Altinoglu, il est très attentif à ça, et pour moi, c'est la faute des chanteurs qui doivent avoir un matériau et qui doivent avoir un placement pour comme on dit, percer la fosse. Il y a des fenêtres harmoniques qui sont laissées dans la partition pour que les chanteurs puissent naturellement passer. Là, c'était pas le cas quand j'y étais pour les deux rôles principaux.
Anna Segalevich, musicalement, ce Tristan.
Alors musicalement, mais j'ai été très très emballée aussi par la direction de d'Alain Altinoglu, parce que dès le prélude, c'est très animé. Il y a même une certaine fraîcheur en fait dans sa façon de diriger ça. Les tempi sont assez allants, ça avance beaucoup et c'est pas un Tristan qui s'appesantit ou qui se gargarise lui-même de son de ses sonorités. Donc c'est agréable parce que et en plus la façon dont il anime les choses, ça ne se tarit pas. C'est-à-dire que ça avance, ça bouge, c'est très contrasté, c'est très vivant. C'est vraiment un orchestre qui est tout le temps en mouvement. Après, oui, c'est pas l'orchestre qui a les plus belles couleurs qui soient, l'orchestre de la Monnaie, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, mais en tout cas, je trouve qu'avec cette matière, et puis c'est aussi assez inattendu par certains moments. Il y a aussi des vrais partis pris entre le troisième, enfin entre les deux premiers actes et le troisième acte. Il y a une vraie différence de climat. Enfin, il y a des idées beaucoup et c'est tenu de bout en bout. Donc, j'ai été vraiment enthousiasmée par cette direction.
Alors, j'ai pas précisé en débutant cette séquence, mais on pourra voir cet opéra en streaming sur le site de la Monnaie, comme ils le font toujours. Ce sera à partir du 6 juin. Moi, j'ai très hâte, au moins, d'écouter via ce canal-là, la direction d'Altinoglu. Parce qu'il y a quelque chose, Emmanuel Dupuis, quand même de très latin chez ce chef-là. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a du sentiment et il en faut aussi pour Wagner.
Il y a quelque chose de très latin chez ce chef, mais quelque chose de très latin aussi dans l'orchestre de la Monnaie, qui n'est pas un orchestre. C'est pas le Philharmonique de Vienne, c'est pas l'orchestre du Festival de Bayreuth. C'est-à-dire ces orchestres germaniques qui ont une patte somptueuse. Non, c'est pas ça. Il y a effectivement quelques petits soucis. Quelques petits accidents parfois, quelques petits problèmes de cohésion, mais il y a effectivement cette couleur, cette texture toujours claire dont Alain Altinoglu joue beaucoup pour accompagner les voix et puis justement effectivement comme l'a dit Anna pour imprimer à la partition un mouvement, une sorte de mouvement perpétuel, une ardeur qui pour le coup sont un petit peu en contradiction avec ce qu'on voit.
Pour y revenir, voilà, c'est vrai.
Mais c'est quand même très réjouissant, effectivement, ce qu'on entend.
La qualité de l'orchestre, je tiens quand même à la signaler, on en a parlé plusieurs fois ici, dans Mozart, dans Janáček, c'est très bien. Et un petit détail qui m'a intéressé, Altinoglu explique qu'il est retourné consulter les manuscrits de Wagner, justement pour essayer de voir même la fougue dans l'écriture. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais en fait, ça s'entend.
Bon, on le croit sur parole.
Voilà. On croit sur oreille.
C'est un passionné, enfin heureusement qu'il l'est quand on fait ce métier-là.
Il est heureux de diriger ça, franchement, c'est agréable.
C'est vrai qu'il transmet des bonnes ondes quand il est dans les fosses à l'Altinoglu.
Oui, il y a quelque chose d'organique, qui relève de la pulsion dans sa direction.
C'est organique, ça correspond un peu aux images de la mise en scène,
là, oui,
qui sont très organiques.
Pourquoi pas,
vous taquine. Bon, pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir y aller, il reste, je crois, deux dates. Enfin, en tout cas, la dernière, c'est le 19 mai à la Monnaie de Bruxelles pour ce Tristan et Isolde, dirigé donc à Alain Altinoglu. Et je reprends à ce que vous m'avez dit, Anna Sigalevitch. Concept artistique, en effet, itinéraire inscrit de Ralph Plegar et Alexander Poltsin. Donc, cette production sera disponible en vidéo netto diffusion. Il faut que je trouve le terme français. Sur le site de la Monnaie, du 6 au 27 juin. Nous allons parler dans cette dispute de Rex Progress, de Titan et de Mamsel Nitouche.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Nous poursuivons cette dispute avec un autre opéra à découvrir en ligne, mais là, tout de suite, et pour longtemps. C'est sur le site Arte TV qu'on peut découvrir la mise en scène de The Rex Progress de Stravinsky par Simon McBurney, avec une direction musicale d'Eivind Guldberg Jensen. C'est un opéra qui a... Cette production a été filmée au Festival d'Aix-en-Provence en 2017. Avant même de revenir sur l'histoire, un petit tour rapide de table. Alors peut-être d'abord dans un premier temps pour savoir si vous avez vu cette production dans la cour de l'archevêché ou seulement dans la vidéo-diffusion sur Internet, Charles Arden?
Moi, je travaille dans une équipe qui est une excellente correspondante sur place, donc je l'ai vu en vidéo.
Vous l'avez vu en vidéo, Anna Segalevich?
Non, moi, c'est la seule production que j'ai ratée aussi cette année-là. J'étais déjà partie quand ça a commencé.
Dommage, c'était la meilleure. C'est mon sentiment, Emmanuel Dupuis.
Et j'ai découvert aussi cette production en vidéo.
Ah bon? Je suis le seul ici.
Il y avait quand même Carmen de Mise en scène par Tchernyak.
Ouais, mais c'est quand même beaucoup mieux. Vu de la salle.
Ça discute.
On en a discuté du Carmen de Tcherniakov. Il y avait plein de choses à dire, mais je pense que vraiment le spectacle marquant cette année-là, je suis pas le seul à l'avoir pensé. Mais peut-être fallait-il être dans la cour de l'archevêché. C'était toute la différence. Je me sens très privilégié. Mais vous êtes tous les trois été à Bruxelles et pas moi. Bon, Rex Progress, opéra en trois actes, composé par Stravinsky entre 48 et 51, je parle de 1900, inspiré d'une série de peintures de William Hogarth qui s'appelle Rex Progress. Très librement inspiré du mythe de Faust, on va suivre donc Tom Reckwell, jeune homme amoureux d'Anne Trulove qui va se marier avec elle et puis tout d'un coup on lui dit qu'il a hérité d'un oncle d'Amérique et qu'il doit quitter sa campagne pour aller chercher son héritage à Londres, et c'est vilain Nick Shadow qui le conduit, qui le cornaque, et donc Tom va vivre, pour reprendre le titre français, la carrière d'un libertin. Alors, Charles Arden, description d'après ce que vous avez vu sur votre écran de la scénographie, donc des choix de mise en scène qui en découlent, parce que c'est quand même là très intrinsèquement lié.
Absolument. En fait, l'action se déroule dans une grande boîte qui occupe tout le plateau. C'est une boîte qui est ouverte vers le public et surtout qui a des parois en papier blanc. Ces parois de papier, elles sont en fait autant de toiles. Toiles déjà dans le sens cinématographique, puisque la mise en scène va y projeter des vidéos. D'abord, on a un paysage bucolique pour l'amour irénique qui réunit les deux tourtereaux. Donc, comme vous l'avez dit, Tom Reckwell et Anne Trulove. Bien sûr, les noms sont choisis. Et puis ensuite, les vidéos montrent l'agitation frénétique de la grande ville et elles vont montrer progressivement les péchés dans lesquels va sombrer le libertin jusqu'à finir dans un asile d'aliénés. Ces vidéos sont intéressantes, je trouve, car elles forment un storyboard. D'ailleurs, j'ai découvert une traduction en français très amusante de storyboard. On peut dire scénar-image dans un peu notre série.
Je vais le noter.
Voilà.
Scénar-image.
Je pensais que vous le connaissiez. Je suis assez fier. Et donc, ce scénar-image, c'est en fait dans l'esprit un peu une version justement modernisée de la source qui a inspiré Stravinsky, les peintures et les gravures Rex Progress de Hogarth, qui déjà, en 1732, ont la force et le dynamisme d'un storyboard. Mais les toiles de papier sur les murs blancs, c'est aussi les toiles d'un tableau, et c'est en fait un portrait de Dorian Gray, puisque à chaque fois que, d'abord, Méphistophélès rentre en scène, à chaque fois que les différents péchés, les corps, les objets rentrent dans la vie de Tom, ils vont déchirer le papier, à la fin ça finit en lambeaux, une scène bouleversante où Tom Reckwell essaye de rafistoler tout ça avec des petites étiquettes fragiles, un peu comme à la poste, bien évidemment en vain. Dernier point, il y a une avancée devant la scène, devant la fosse, au pied du public qui permet de venir faire la morale à la brèche, on brise le quatrième mur.
Emmanuel Dupuis, après cette description, sentiment, alors, du côté de la mise en scène pour l'instant, encore une fois.
Moi, c'est un spectacle que j'ai trouvé très virtuose, avec beaucoup d'énergie, très réussi sur le plan visuel par l'utilisation de ce décor, effectivement, d'abord qui décor tout blanc au départ, qui effectivement est une sorte de page blanche sur laquelle tout peut arriver et tout arrive effectivement grâce notamment à l'utilisation de la vidéo qui est toujours très pertinente. Et puis il y a surtout contrairement à Tristan, une énergie du mouvement permanente qui ne retombe jamais. Moi, ça m'a fait penser par moments, et je dis ça de façon absolument pas péjorative, à la comédie musicale façon Broadway. Il y a un peu quelque chose de ça dans cette énergie. Mais la contrepartie, c'est que j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelque chose de par moments, d'un petit peu superficiel. C'est-à-dire qu'en fait, Simon McBurney fait de l'histoire de Tom Reckwell l'histoire d'un trader qui va être ruiné par un krach boursier. Alors, c'est une actualisation qu'on a déjà vu, mais qui est très pertinente, ceci étant, et qui est très bien assumée. Mais c'est vrai que la contrepartie, effectivement, c'est qu'on passe un petit peu à côté de la profondeur métaphysique de l'ouvrage, et notamment de la dimension du mythe phocéen qui est un petit peu reléguée au second plan.
Alors oui, il faut préciser encore à Segalevitch que c'est, à l'archevêché, le fait d'avoir imaginé cette boîte, c'est qu'on n'a pas de dégagement, on ne peut pas changer de décor comme cela, et que effectivement cette idée, elle est aussi conçue par rapport à ce lieu spécifique qu'est la cour de l'archevêché. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce travail de Simon McBurney?
Alors, je suis d'accord avec Emmanuel quand il dit que le mythe faustien, on ne l'a pas totalement, mais parce que je pense, oui, mais pour moi c'est pas un problème, parce que je pense que c'est autre chose en fait qui se joue dans cette mise en scène, c'est que ça n'est pas le libertin du 18e qui monte et qui descend. Pour moi, c'est autre chose qu'il met en scène. Donc oui, la transposition du trader, elle est évidente, mais elle est pertinente aussi. Oui, oui. David Bobet l'avait fait il y a deux ans ou trois ans aussi. Voilà, donc c'est, en effet, c'est très évident. Mais pour moi, ce qui se joue là, et ça m'a beaucoup plu et en fait touché, c'est que c'est... Pour moi, le personnage de Tom Rockwell, ici, ne jouit jamais de ce qui se passe. C'est une sorte de victime, de anti-héros, qui subit, en fait, le mouvement de la société qui érige des idoles pour mieux les détruire après. Donc, en fait, il n'est pas victime de Nick Shadow, de ce personnage, qui n'est pas, d'ailleurs, diabolique. Ce Nick Shadow, dans cette mise en scène, c'est une sorte de cadre supérieur assez banal, assez médiocre, qui n'est pas grand-chose. C'est pas la figure maléfique à laquelle on s'attend et qu'on voit la plupart du temps. Donc pour moi, c'est autre chose qui se joue, et c'est très intéressant parce qu'il est broyé par tout ça, on le voit. Il paraît tout petit dans cette grande boîte où tout est projeté, tout va très vite, tout va trop vite, et une fois qu'il rentre dans ce monde et qu'il quitte en fait ce paysage bucolique qui lui est beaucoup plus pastoral, qui est beaucoup plus romantique. Tout d'un, on quitte un monde pour entrer dans un autre, et à partir du moment où il met les pieds dedans, c'est foutu. Et je trouve que ça, on le ressent très bien, et la bascule d'un monde à l'autre, on la sent très bien. Donc, pour moi, c'est une mise en scène qui a de la profondeur en ce sens.
Oui, alors profondeur et sans doute alors peut-être l'émerveillement joué plus fort in situ. Bon, on va parler, c'est un peu l'inverse de Tristan, on va dire que au niveau musical, c'est peut-être pas à la même hauteur, mais en tout cas l'émerveillement, il tient aussi beaucoup, et ça pour le coup on le voit bien en vidéo, sur la précision de la direction d'acteur, qui est quand même assez stupéfiante. Anne Trulov est quand même poignante d'un bout à l'autre, enfin il y a une émotion qui se dégage, il y a une forme de sincérité, et en même temps tout ça va très vite, tout ça est très fluide, tout ça n'est jamais attendu, et même si on peut connaître ou pas d'ailleurs l'ouvrage en y arrivant, il y a quand même une fluidité, Anna Segalevitch.
Absolument, je suis d'accord, il y a une fluidité totale, et puis dans ce parallèle, il la met beaucoup en scène, cette chanteuse Julia Bulloch, comme vous dites Arnaud, qui est une chanteuse qui est assez particulière, qui a même certains problèmes techniques, mais voilà, moi elle me plaît, cette chanteuse, je l'ai vue d'ailleurs très récemment au Théâtre des Bouffes du Nord dans Zauberland. C'est une chanteuse qui est incarnée, qui a beaucoup de chair, qui a un timbre pulpeux, qui a des beaux graves et des beaux médiums, qui a des problèmes d'aigu, enfin, notamment à la fin de l'acte 1, il y a un contrut qu'elle a du mal à faire, mais c'est... Voilà, les intervalles sont, c'est un rôle qui est très exigeant, et dans les graves et dans les aigus. Donc il y a des petits problèmes en effet à ce niveau-là, mais ça joue très bien. Et je trouve qu'il y a un équilibre entre incarnation et ce que raconte l'œuvre qui me séduit. Et ces deux mondes, quand elle apparaît, par exemple, pour le rejoindre à Londres, elle est dans les souterrains comme ça du métro. C'est deux mondes qui sont face à face, pour moi, ça fait sens.
Bon, allez, un autre duo d'amour, cette fois, à l'acte 3. Et bon, Tom, ça va pas très bien dans sa tête.
Forgive thy servant who depends.
Emmanuel Dupuis.
Oui.
La musique. La dimension musicale. Alors, il faut que je retrouve le nom du chef. Eivind Gullberg Jensen.
Alors, bon, c'est assez bien dirigé. Et surtout, les thèmes de l'Orchestre de Paris, je trouve, rendent bien justice à l'écriture de Stravinsky. Malgré tout, moi, il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué l'ivresse virtuose que j'aime entendre dans cette musique. Bon, il faut dire que ce chef, Eivind Gullberg Jensen, remplaçait Daniel Harding, qui avait annulé quelques jours plus tôt. Ceci explique peut-être cela. Il y a peut-être eu un manque de répétition. Quant au plateau vocal, tout d'abord, le rôle principal, c'est le rôle de Tom, qui est tenu par Paul Appleby, qui réalise un numéro de chanteur-acteur absolument formidable, surtout un numéro d'acteur. Et c'est là qu'on voit qu'il y a chez Simon McBurney un vrai talent de direction d'acteur. Sur le plan vocal, il ne démérite absolument pas. Ceci étant, c'est peut-être pas le plus stylé des Tom et Cole qu'on a entendu. On a entendu dans ce rôle-là de très grands ténors de mozartiens, notamment. Et là, c'est pas tout à fait du même niveau. C'est la même chose pour Julia Bullock. Je rejoins tout à fait Anna. C'est une artiste. Bouleversante, plus bouleversante par son incarnation que par ses talents vocaux. Vocalement, c'est même un petit peu appliqué par moment. Pour moi, celui qui domine le plateau, c'est Carl Kittelsen, donc qui joue le rôle du méchant Nick Shadow. Il traduit très bien la dimension diabolique du personnage avec une voix grave, somptueuse. Et on a fait le choix dans cette mise en scène de confier le rôle de Babala Turk, qui est une femme à barbe, à un contre-ténor, alors que d'habitude ce rôle est confié à une mezzo-soprano. Alors c'est vrai que ce choix ajoute un élément de distanciation comique assez efficace et une forme d'ambiguïté sexuelle, évidemment. Ceci étant, c'était peut-être pas le bon contre-ténor, parce que il s'agit d'Andrew Watts, qui c'est pas la plus belle voix de contre-ténor qu'on ait entendue.
Bon, alors des corrections par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, selon vous, ou Charles Ardenne?
Déjà, ouais, l'idée du contre-ténor, elle est intéressante. Varlikovsky l'avait fait pareil en 2015 à Berlin, et ça ajoute une certaine agilité, mais en effet, il y a un criant, je pourrais dire, manque de volume. Par rapport au Nick Shadow, moi je l'ai trouvé quand même assez distant, assez noble, mais exactement comme disait Anna par rapport à l'incarnation. Et je trouve, pour moi au niveau vocal, c'est un peu le défaut d'une qualité, c'est qu'ils chantent vraiment comme ils sont dirigés au niveau des acteurs. Donc du coup, moi la Julia Bullock qui ici est un personnage très doux, très tendre, très distant, errant, avec son petit sac à dos là de Dora l'exploratrice, je suis désolé, ça se retrouve un peu sur sa voix qui est un peu à la peine, un peu en retrait, même pour une captation où ils ont clairement approché très très près les micros pour qu'on puisse bien entendre les voix en équilibre. Le Tom Requel de Paul Appleby me semble un peu débraillé, et l'orchestre c'est brouillon, c'est papier brouillon.
Bon, Anna Shigalevitch, pour conclure cette séquence sur Rex Progress.
Non, je suis plutôt d'accord avec ce qu'ont dit mes camarades. J'ai quand même envie encore de dire que j'aime bien Julia Bullock, parce que...
Ouais, je suis d'accord, moi je le dis aussi.
Voilà,
j'aime
son teint. Je trouve qu'elle a...
Le timbre est séduisant.
Ouais, c'est une voix qui est fruitée, qui est sensuelle, qui est ambrée. Enfin, elle a vraiment quelque chose de particulier. Et en effet, c'est vrai que la cohésion direction d'acteur et timbre, là, est criante. Et donc c'est des partis pris... auquel moi j'ai plutôt envie d'adhérer, même si j'ai des réserves comme Emmanuel et Charles.
Emmanuel, le dernier mot, vraiment.
Non, juste pour rappeler que Stravinsky tenait absolument à ce que ce soit Elisabeth Schwarzkopf à la création qui chante le rôle d'Anne, ce qui...
Elle n'était pas disponible il y a deux ans.
Voilà. Ce qui en dit long sur le niveau d'exigence quand même du compositeur.
C'est hyper difficile. Ouais. Ouais.
Très beau.
Très beau.
Bon, vous pouvez voir... Écoutez, donc cette production qui est disponible sur Arte TV jusqu'en juillet 2020, ce Rex Progress de Stravinsky, mise en scène Simon McBurney, direction Eivind Gullberg Jensen. C'est C'est l'heure du coup de cœur de Charles Ardenne pour Mamselle Nitouche d'Hervé. Mise en scène Pierre-André Vetz, direction musicale Christophe Graperon. Ça se donne jusqu'au 19 mai au Théâtre du Capitole à Toulouse. Ce sera donné ensuite du 7 au 15 juin au Théâtre de Marigny à Paris. Il y a un petit extrait qu'on entendra. C'est vous qui décidez du moment où vous avez envie d'entendre cet extrait. Charles, pourquoi ce coup de cœur?
Eh ben pour cette très très belle, enthousiasmante, mais assez puissante et même un peu en forme de brûlot politique qui est Mamselle Nitouche, donc un vaudeville opérette créé en 1883 au Théâtre des Variétés par le compositeur Hervé, qu'on a surnommé quand même le père de l'opérette, et le compositeur Toquet aussi, qui était le nom d'une de ses premières œuvres. C'est un grand divertissement réjouissant, comme on savait les faire dans le Paris du 19e siècle, le Paris et le siècle d'Offenbach, qui était le grand rival et néanmoins ami d'Hervé. C'est un grand divertissement, mais comme je le disais, et comme disent les latins, castigat ridendo mores, c'est en riant qu'on châtie les mœurs. Et l'intérêt passionnant de cette œuvre...
J'allais dire à vos souhaits, moi, mais
bien c'est... Sûr, bon,
comme vous voulez.
L'intérêt de cette production, c'est que justement, bah voilà, derrière la gaieté, il y a ce message terrible, politique, social, qui est très très bien mis en scène. Cette Mamselle Nitouche, en deux mots très rapides, elle parle justement d'une sainte Nitouche, une jeune demoiselle de Nice de Flavigny, qui chante des cantiques, gentiment, enfermée au couvent, mais qui rêve de liberté, de théâtre, de musique légère, et justement, elle découvre que Célestin, son organiste, le jour... Il est compositeur d'opérette la nuit sous le nom de Floridor. C'est d'ailleurs l'histoire de la vie de Hervé, hein, qui le jour s'appelait Louis-Auguste Florimond Rongé, respectable organiste de Saint-Eustache. Je vous passe les mille péripéties qu'il faut absolument découvrir au Capitole, mais justement elle évite un mariage arrangé, cette Mamselle Nitouche, arrangé par la mère supérieure et par le grand major de la caserne, comme quoi l'église et l'armée se réunissent pour organiser des mariages. Comme chez Molière, heureusement, tout est bien qui finit bien, c'est réjouissant, c'est Olivier Pied et Weitz. Cette fois, Olivier Pied n'est pas à la mise en scène, c'est Weitz qui met en scène.
Mais il joue dedans.
Et puis, il joue dedans, et il joue, et il chante, et il danse comme tout ce plateau, et c'est formidable. En plus, évidemment, il joue trois rôles. La mère supérieure, sa Miss Knife, qui est la vedette de théâtre, ainsi que le soldat. Donc, il fait vraiment la transition. Ça tourne très juste, comme ce plateau tournant qui nous rappelle l'esthétique de ces deux artistes.
Et on écoute un extrait, donc c'est Denise, déguisée en Mamselle Nitouche, qui chante la légende de la grosse caisse.
Le long de la rue Lafayette, une musique militaire marchait. Soudain, quand te passe une grisette blonde et fraîche comme un bouquet. Elle est jolie comme une princesse, s'écria chaque musicien. Il y avait seulement la pauvre grosse caisse qui ne disait rien, qui ne voyait rien. À cause que son instrument lui bouchait l'œil hermétiquement. Si mais comme c'était un bon garçon, bon gamin, tout de même ses coups de tampon. Ils suivirent la particulière jusqu'à la porte de son séjour. Puis toute la musique militaire monta lui dire un petit bonjour. Dernier qui vint fut la grosse caisse qui se présenta d'un pas hardi. Au moment de peindre son ivresse, v'là qui reconnaît, savez-vous qui? Sa propre femme qui avait eu un an avant de prix de vertu. Sinon, non, vous êtes un bon garçon. Pour ma mes enfants, quel coup de tampon.
Cric, crac, criez la peau, les dents sur le sac, les sacs sur l'eau. Redons-nous stade, suivez grosse, qu'est-ce qu'il est femme dans chaud.
La suite au Théâtre du Capitole jusqu'au 19 mai, et puis du 7 au 15 juin au Théâtre de Marigny pour cette Mamselle Nitouche.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Et on change de registre pour le dernier sujet de notre sommaire. C'est un disque gravé par l'ensemble Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth. C'est Titan de Gustav Mahler, sorti chez Harmonia Mundi. Impression générale sur ce disque, Emmanuel?
Pour moi, c'est un accomplissement, tout simplement.
Anna Segalevitch?
C'est inattendu et très intéressant.
Charles Ardenne?
Une résurrection titanesque.
Wow. Ça donne envie, hein. Mais de quoi s'agit-il, Emmanuel? Donc, c'est la première symphonie de Gustav Mahler, qui ne s'appelle pas encore comme ça à ce moment-là.
Voilà.
Quelles en sont les caractéristiques et qu'est-ce qu'on peut dire de sa place? On va en écouter un extrait dans le parcours de Mahler.
Alors, Mahler n'avait pas 30 ans quand il a composé cette symphonie. Et ce qui est frappant, c'est que ce coup d'essai est déjà en réalité un coup de maître, parce que toutes les caractéristiques du langage, même du génie mahlérien, sont là. C'est-à-dire le sens de la grande forme absolument maîtrisé, la science du collage aussi, qui mêle des éléments de musique populaire, même de musique militaire, à un langage très personnel qu'on reconnaît tout de suite en quelques mesures. Et cette symphonie est probablement aussi la plus autobiographique que Mahler ait composée, parce que il raconte d'une certaine manière son enfance, mais aussi l'histoire d'amour qu'il vivait à ce moment-là avec Marion von Weber, une descendante de Karl Maria von Weber. Et puis apparaît aussi dans cette symphonie, et notamment à travers le titre, la volonté de dépassement qui animera Mahler toute pendant toute son existence, volonté de dépassement qui fait écho à ses lectures de Schopenhauer.
Et puis on va écouter, on en reparlera après, ce deuxième mouvement de Titan.
Thank you.
Voilà pour ce deuxième mouvement de Titan de Gustav Mahler, Anna Segalevitch.
Alors en effet, on ne l'entend pas souvent ce deuxième mouvement, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est la deuxième version et qu'ensuite, dans les versions créées après, Wagner. Mahler a donc supprimé ce mouvement. Il a fondu la symphonie qui ne s'appelait plus que symphonie numéro 1 en quatre mouvements. Et ce mouvement est absolument magnifique. Donc c'est une grande joie de l'entendre. Alors il y a quand même, on peut l'entendre si on veut, hein, ce mouvement. En effet, il est rarement joué, en tout cas en cinq mouvements. Mais il y a quand même pas mal de chefs qui le jouent après, en fait.
En appendice.
Voilà, en appendice, exactement. Ouais, non, c'est vrai, il y a 3-4 versions comme ça. Ashkenazi, je crois qu'Ivan Fischer aussi. Enfin bon, voilà. Alors,
on parle des siècles.
Voilà, parlons des siècles qui méritent vraiment qu'on parle d'eux, franchement.
Ah oui, on en parle régulièrement, mais il y a de
parce
quoi.
Parce que Emmanuel disait au départ que Mahler avait le sens de la grande forme et de la maîtrise de la grande forme. Et on peut vraiment dire que François-Xavier Roth a aussi le sens de la maîtrise de la grande forme. C'est d'une intelligence, en fait, la façon dont il conçoit chaque mouvement, chaque programme, dont il installe dans le premier mouvement, la façon dont il installe le climat, les différents plans, et puis dont il fait après. Ce qui est beau, c'est que c'est à la fois très maîtrisé et qu'en même temps, c'est aussi naturel, ça jaillit, et quand il lâche les chevaux, ça prend une dimension qui est immense. Dans le... Alors, ce qui est maintenant le quatrième mouvement, mais on est habitué à ce que ce soit le troisième, par exemple, moi je trouve que c'est bois comme ça, d'instruments anciens, alors que bon, je suis complètement obsédée par la version de Bernstein avec Amsterdam, donc je suis pas obsédée par les orchestres anciens, pas du tout, mais je dois dire que ça donne des couleurs.
Les siècles, hein, ils jouent toujours sur les instruments de l'époque, de la partition.
Donc là, voilà, donc là c'est de l'époque, c'est même des instruments allemands, des instruments
tant
allemands
qu'à faire
de la
que
fin du 19e.
Précis,
voilà,
oui.
C'est d'une précision absolue. Ouais. Hein.
Mais c'est pas, ça a du sens chez eux, en tout cas.
Ça a du sens quand on l'entend, parce qu'on découvre vraiment d'autres couleurs, et donc ces bois dans ce mouvement-là, normalement, il y a quelque chose qui grince, qui est rustique, et qui fait apparaître vraiment d'autres dynamiques qui sont très étonnantes et qui éclairent notre regard sur l'œuvre.
Emmanuel Dupuis.
Oui, alors moi je suis souvent méfiant quand on joue la musique romantique sur instruments anciens, parce que la plupart du temps j'entends davantage les limites que les bénéfices. Mais là, c'est pas du tout le cas. Bon, alors il faut dire que l'enregistrement a été particulièrement peaufiné, puisque il a été réalisé sur une période de 9 mois. Donc, forcément, tout a été très peaufiné et on n'entend aucun défaut. Mais ceci étant, cette perfection du jeu instrumental ne bride absolument pas la spontanéité. Au contraire, il y a comme l'a dit Anna, il y a une très grande fluidité tout le temps, et puis des prises de risques insensées, par exemple dans le scherzo qui avance toute voile dehors. Et puis il y a effectivement ces couleurs nouvelles. Paradoxalement, nouvelles, puisqu'elles sont issues des instruments anciens, et ce sont des couleurs boisées, des couleurs liquides, qui traduisent à merveille le côté panthéiste de cette œuvre. On est vraiment en pleine forêt, et tout ça, finalement, c'est captivant, parce que c'est totalement différent de l'espèce de solennité monstrueuse à laquelle on s'est habitué dans la version définitive de la symphonie numéro 1. Donc voilà, c'est vraiment un disque absolument captivant.
Charles Ardenne, sur ce disque Titan gravé par les siècles.
Je suis pleinement d'accord. Et en effet, moi aussi, je suis très méfiant quand on dit retour aux instruments d'époque, retour. Là, ici, c'est les instruments d'époque et même de lieu. Ils donnent même un peu la carte d'identité des divers instruments dans le livret. Sauf que là, ça s'accompagne avec un projet artistique. C'est aussi, j'ai l'impression, comme un jeu d'époque, de lieu, d'esthétique, avec beaucoup d'identité dans les solistes. On a vraiment un esprit romantique germanique, une justesse de la patte, des couleurs, il y a tous les crescendo, les accelerando, la fougue. Et au niveau romantique, on a à la fois donc la nature, caractère bucolique, candeur, douceur des boyaux, ça c'est l'intérêt intérêt des instruments, les rossignols, les coucous qui surgissent de partout, et aussi le romantisme, c'est cette nature bucolique qui peut plonger dans la nostalgie, la douleur, le caractère brisé. Anna parlait tout à l'heure du quatrième mouvement, voilà, où il y a ce frère Jacques en mineur qui est terrible, qui est une des plus bouleversantes et tristes élégies aux enfants morts, les Kinder Totenlieder, comme disait Emmanuel, qui inspireront plus tard toute l'esthétique de Mahler. Il y a tout Mahler déjà dans cette première symphonie. Et revenir à cette deuxième version, c'est aussi revenir au programme qu'avait donné Mahler, à la description, au titre, depuis Printemps qui n'en finit pas, fleurette, toute voile dehors, à la comédie humaine, échouée, et depuis l'enfer. Voilà tout ce qu'on retrouve dans ce disque, selon moi.
Et Emmanuel Dupuis ?
Oui, je trouve que bon, ce qui est très intéressant aussi, c'est évidemment d'entendre cette version originale révisée, qui bon, on a parlé de ce deuxième mouvement qui a été supprimé par la suite, que Mahler a par la suite qualifié d'ânerie de jeunesse, mais bon, il faut savoir qu'en réalité, ce mouvement était dédié à Marion von Weber, et c'était probablement cet amour de jeunesse qui était une ânerie. Bref, mais à part ce mouvement qui a été supprimé, il y a quand même beaucoup de différences tout au long de partout dans les équilibres. Il y a eu beaucoup d'évolutions par la suite de l'écriture. Et je trouve que le climat de cette première version est plus nostalgique, plus poétique, moins écrasant que la première symphonie que l'on a l'habitude d'entendre. Et c'est une œuvre différente, d'une certaine manière.
Bon, pour la découvrir, vous procurez ce CD chez Harmonia Mundi de Titan, de Gustav Mahler, direction musicale de François-Xavier Roth, avec son ensemble Les Siècles. Et puis il y a des concerts à venir, des siècles, Berlioz, la symphonie fantastique. Ils donneront cette œuvre le 23 mai à Toulouse, le 24 mai à La Rochelle, le 26 mai à la Philharmonie de Paris. Programme Brahms, un requiem allemand, le 28 mai à Compiègne. Et puis Berlioz, concert monstre. Ça, ce sera pour le 24 juin à la Philharmonie de Paris. Voilà les prochains concerts des siècles. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Joséphine Dumoulin nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question de jeudi hier et nous donner sa réponse, Joséphine.
La question était: à quel dramaturge anglais le spectacle intitulé Rose de Nathalie Béas fait-il référence? Et la réponse était William Shakespeare.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour aller voir le film Passion de Ryusuke Hamaguchi qui sort demain sur les écrans. Quelle est la question?
Dans quelle trilogie documentaire Ryusuke Hamaguchi filme-t-il les ravages causés par le tsunami de 2011 au Japon?
Votre réponse, avec vos coordonnées postales bien sûr, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pino et Joséphine Dumoulin. La prise de son ce soir, Alexandre Dang. Et à la réalisation, Alexandre Fougeron, puisque ce sont deux personnes distinctes qui portent le même prénom. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Yasmine Youssi, Corinne Rondeau et Sally Bonne. À notre affiche, Ligne de vie, une exposition de légende, c'est au Macval. C'est Beyrouth, c'est le titre de l'exposition qu'on peut voir à l'Institut des Cultures d'Islam, et puis une exposition consacrée à Barbara Probst au bal. Yasmine Youssi, qui rentrera de Venise, nous dira quel a été son coup de cœur dans la Biennale.